Dilo ba tsho kungule ya dik ala ngo.
Bonsoir, province du Bandundu, le gouverneur Richard Ndambou est tombé la semaine dernière à l'issue d'une motion de défiance votée par l'Assemblée provinciale. Il lui est notamment reproché le détournement des millions de francs issus de l'impôt personnel minimum et des retenues sur salaire de l'opération Konzo. Comment analyser la décision de l'Assemblée provinciale du Bandundu et quelles pourraient en être les conséquences sur le fonctionnement de cette province? Trois invités participent à cette émission. Professeur Arsène Mouaka, professeur de sciences politiques et coordonnateur du Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Mouaka, bonsoir.
Bonsoir.
Boniface Ntoua, président de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Honorable Ntoua, bonsoir.
Bonsoir.
Richard Ndambou, gouverneur du Bandundu, il va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais vos réactions, nous les avons déjà. Claude de Kinshasa, pourquoi d'autres gouverneurs tombent facilement sans débat comme Richard Ndambou? Quel intérêt la population du Bandundu peut tirer de cette situation au moment où Richard Ndambou est à la fin de son mandat? Je pense que tout ceci est une distraction. Professeur Wachamba Filemon de Kikwit Bandundu, moi, j'approuve cette motion de déchéance du gouverneur Richard Ndambou. Je pense même qu'elle intervient en retard, car depuis longtemps, une telle décision courageuse devrait être prise à son encontre suite à sa mauvaise gestion de la province et surtout au manque de transparence dans sa gestion financière. Nous, du secteur de l'enseignement, sommes vraiment les plus grandes victimes de sa gestion ici à Kikwit. À Bandunduville, on nous suivait sur 99 FM et partout au monde sur Radio Capitoinet. Merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au Bandundu, la majorité des députés provinciaux de cette assemblée provinciale a voté la semaine dernière pour la déchéance du gouverneur Richard Ndambou. C'était à l'issue d'une motion de défiance initiée contre lui le lundi 7 mars dernier par le député provincial Valère Mwemba du Parti Convention pour la République et la Démocratie, CRD, membre de la majorité présidentielle. Le vote de cette motion est intervenu vendredi 11 mars dernier dans la soirée. D'autres détails avec vous, Fatih Kambizi.
Sur les 75 votants des 84 députés qui comptent l'Assemblée provinciale de Bandundu, 43 avaient voté pour le départ du gouverneur de province, 29 voix contre, une abstention et 2 bulletins nuls. Les signataires de cette motion reprochent au gouverneur Richard Ndambou, notamment le détournement des indemnités de sortie des membres des cabinets du gouvernement provincial de la période de transition 1+4, le non-paiement des ministres et des membres du gouvernement provincial en fonction pendant 8 mois, ainsi que le détournement des millions de francs congolais issus de l'impôt personnel minimum perçu en province, sans quittance et des retenues sur salaire de l'opération Konzo de Kayemba. Dimanche 13 mars, la situation politique restait confuse dans la province. Le vice-gouverneur notifié par l'Assemblée provinciale pour assurer l'intérim s'était dit refuser l'accès au gouvernorat par la police nationale. Cette notification lui était faite samedi le 12 mars par le bureau de l'Assemblée et l'opinion dans son ensemble avait été fixée dimanche 13 lors d'un point de presse de l'Assemblée qui mis à son siège à Bandunduville par son rapporteur l'honorable Maurice Nabaola. Monsieur Serin, on assistait à une confusion totale. On ne savait plus à qui la police devait obéir, mais à la dernière minute, on nous apprend que le vice-gouverneur serait déjà en fonction. Le gouverneur sortant a introduit une requête en annulation à la cour d'appel et l'affaire est à la justice. Kikwit, Fabien Kambizi pour Dialogue entre Congolais.
Merci Fabien Kambizi. Monsieur le gouverneur Richard Ndambou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Il vous est reproché plusieurs griefs. Qu'est-ce que vous y répondez?
Oui, on m'a reproché plusieurs griefs. au total 23 prières. Les réponses que j'ai données, j'ai donné les réponses précises à toutes les prières. Il n'y a aucun grief qui est resté. Je pouvais dire que le signataire de la motion pour le vote.
Monsieur le gouverneur, à vous comprendre, même si la qualité de votre ligne n'est pas très très bonne, à vous comprendre, vous balayez d'un revers de la main à tous ces griefs.
J'ai expliqué ce qui s'est passé pour tous ces griefs, pour chaque grief, j'ai donné une explication qui s'en fait.
Monsieur le gouverneur, voilà.
Oui, je vous écoute.
La réalisation peut-être va tenter tout à l'heure de vous rappeler pour améliorer la qualité de votre ligne, mais il vous est par exemple reproché de ne pas payer le non-paiement des ministres et des membres du gouvernement provincial en fonction pendant 8 mois.
Il n'y a pas un problème de non-paiement dans la province, régularité de la paiement dans la province. Et cette irrégularité est due à l'irrégularité des versements de la rétrocession au niveau du niveau central. Et les 8 mois que nous faisons, ce sont les 8 mois cumulatifs. Et ça fait aussi 8 mois que nous n'avons pas reçu la rétrocession au niveau central. Que ce soit le gouvernement central que l'Assemblée provinciale. Ils ont aussi 8 mois pour pas pour nous. Mais c'était les 8 mois qui viennent.
Voilà, nous avons vraiment beaucoup de mal à mieux vous capter. La réalisation va vous rappeler tout à l'heure pour améliorer la qualité de votre ligne. Honorable Boniface, toi, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, vous avez, je pense, suivi les réponses du gouverneur Richard Ndambou qui a balayé d'un revers de la main toutes vos accusations. Comment vous réagissez?
Bon, c'est vrai que le gouverneur devait répondre à toutes les questions, mais le fait de répondre ne signifie pas qu'il apporte de bonnes réponses. Et s'il avait donné de bonnes réponses, la sanction devrait être claire. Je pense que lorsqu'il a donné des réponses, il y a même quelque part, je prends un exemple, lorsqu'on dit que les gels de 3000 dollars qu'on a donné, à ce malheureux papa Mazidi, l'argent est tombé sur sa maison. Alors, le gouvernement central a donné l'argent au ministre des Affaires sociales et l'argent est venu depuis pratiquement le mois de juin, je crois que je ne me trompe pas. Et lorsqu'il a répondu dans la salle, j'ai senti qu'il y a un député qui a dit que voilà, c'est aujourd'hui ou hier qu'on avait commencé à construire. Lorsqu'il a dit que oui, on a déjà construit, mais il avait construit quand? Depuis que l'argent est venu, il venait de construire en retard. Bon, c'est vrai qu'il a commencé, mais il a commencé en retard pendant qu'il y avait déjà la motion sur la table. Ce sont là les réponses qu'il a données qui n'ont pas convaincu la première, et c'est ce qui a fait que la sanction soit telle que vous aviez suivi.
Mais vous avez suivi tout à l'heure le gouverneur qui a dit qu'en ce qui concerne le paiement des indemnités des ministres et des membres du gouvernement, des ministres, il s'agit d'un problème de rétrocession au niveau national.
Oui, mais il faut différencier le gouvernement provincial de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée est effectivement n'attend que Kinshasa pour envoyer. Mais le gouvernement provincial, c'est l'air de respect au niveau local. Si Kinshasa n'a pas envoyé, mais avec le respect local, on pouvait quand même le faire. C'est vrai qu'il y a une commission qui a travaillé avec le ministre des Finances pour certifier combien de mois le gouvernement provincial doit aux membres du cabinet. Et il est assorti qu'il y a 8 mois que le gouvernement doit payer. Et nous avons pensé que lorsqu'on envoie la rétrocession au niveau de la province, au lieu d'abord de penser aux investissements, il faut commencer à payer les gens, les collaborateurs qui sont avec lui, ce qu'il n'a pas fait. Mais du moins, nous lui avons donné beaucoup de conseils par rapport à ça. Il s'est amélioré, mais c'était un peu plus tard que la situation telle qu'il a accumulé plusieurs mois. Il devenait difficile pour nous de pouvoir attirer les 8 mois.
Honorable, toi, prenons cette question qui nous vient de Cap Town, en Afrique du Sud.
Pascal Mwamba, depuis l'Afrique du Sud, précisément Cape Town, la décision de l'Assemblée provinciale est salvatrice au cas où les faits reprochés au gouverneur sont avérés. Mais la crainte est que cette décision soit un règlement des comptes à l'approche des élections.
Honorable Antoine, qu'est-ce que vous répondez? Ne s'agit-il pas là d'un règlement des comptes puisque vous êtes tous de la majorité présidentielle?
Non, je ne dirais pas que c'est un règlement des comptes. Mais c'est le travail de l'Assemblée. L'Assemblée fait un travail, et lorsqu'il le fait, il n'y a pas de règlement de compte. De la même façon que l'Assemblée a porté Richard Ndambo à la tête du gouvernement provincial, de la même façon, on peut le déchoir lorsqu'on voit que ça ne va pas. Donc, il n'y a pas de règlement de compte.
Il y a un autre auditeur, honorable Antoine, en attendant que l'on retrouve le gouverneur qui est à nouveau en ligne, Guillaume Le Brackbert de Mahagui en province orientale. Comment peut-on comprendre cette mesure de l'Assemblée provinciale qui vient à la fin de la législature pour sanctionner plusieurs actes commis par le gouverneur Ndambou dans le passé, honorable Antoine?
Bon, généralement, je vous dirais qu'il n'y a pas de retard pour sanctionner. Lorsqu'on constate que quelqu'un a commis une faute, il ne faut pas directement le sanctionner. Il faut lui demander de s'amender. Et lorsque on lui demande à plusieurs reprises de s'amender qu'il ne le fait pas, je crois que la grande sanction peut venir après. Cela ne signifie pas qu'on vient en retard, il n'y a pas de retard.
Alors, honorable Antoine, pouvez-vous confirmer que toutes les procédures ont été respectées en cette matière?
Oui, par rapport à l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale, les procédures ont été bel et bien respectées. Je dois vous dire que la loi dit que le vote et le débat ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt. Alors, la motion était déposée le 7 et le vote a eu lieu le 11. Donc nous avons respecté. La motion de censure doit requérir au moins 10%, je voulais dire 10% des signatures. Nous sommes 84 députés à l'Assemblée provinciale du Bandundu. Il y a eu 11 signatures. Donc, la motion était recevable. Et aussi, lorsque nous devions débattre de la motion dans la salle de plénière, d'abord, il faut que cette motion soit déclarée recevable par le bureau. Nous avons convoqué une conférence de présidents pour analyser et pour déclarer recevable la motion de défiance. Il n'y a aucune irrégularité, donc la motion de défiance a respecté le bien la procédure.
Merci, honorable toi. Monsieur le gouverneur Richard Ndambou, est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis très bien.
Alors, monsieur le gouverneur, juste vous demander d'éteindre le poste radio qui est à vos côtés. Vous pouvez nous suivre sur votre téléphone, ça permettra d'améliorer la qualité de la ligne.
Oui, j'ai mis la radio, c'est parce que je ne vous écoute, je ne suis pas très bien. À moins qu'on rentre sur, j'ai des difficultés d'entendre ce que vous êtes en train de dire.
Voilà.
C'est ça que j'ai mis la radio à mon côté.
Alors, ne vous en faites pas, vous pouvez nous suivre, vous nous suivrez bien. Alors, monsieur le gouverneur, vous avez suivi, je pense, l'honorable Antoine qui pense que vous avez reçu beaucoup de conseils, mais finalement, vous ne vous êtes pas amendé. C'est pourquoi cette sanction est tombée.
Oui, moi, je pense que lorsque on doit dire qu'on a donné beaucoup de conseils, qu'on ne s'est pas amendé, c'est pour ça que la sanction est tombée. Je vous donne l'exemple. On m'a reproché en 2009 qu'on a effectué, entre guillemets, beaucoup de voyages en Europe. En 2010, nous n'avons fait que 3 voyages. Ce sont des voyages bien précises. Un voyage, nous étions invités au Sénégal pour aller représenter la province sur la sécurité alimentaire. qui était à Rome pour représenter représenter la province lors de la du Camino de Santiago. Nous avons aussi fait un autre voyage en Europe, à Paris, et là c'était pour assister à l'Assemblée générale de l'association des pays qui font partie de l'Association internationale des régions francophones. Donc là, c'était avec des régions, toutes avec des raisons tout à fait précises. Faire un voyage comme cela, c'était des voyages bien précis. C'est pas dire qu'on a fait beaucoup de voyages. Alors, à ce moment-là, il y a une amélioration. En ce qui concerne, par exemple, la rétrocession, on doit faire la part des choses. Lorsque, bon, depuis l'année passée, l'argent est hors de permanent. Cet argent est prévu pour les investisseurs. On ne peut pas prendre cet argent pour payer les gens. C'est-à-dire que cet argent qu'on a fait hors de permanent est parti de la conférence des gouverneurs à qui. Lorsqu'on a pu remarquer les gouverneurs qui avaient pris des crédits passés par là, avaient beaucoup de difficultés. C'est la découverte bancaire qui posait le problème pendant la conférence. Si on pouvait remettre à chaque au moins $1 million par mois, pour pouvoir investir avec. Et on a promis à chaque province et pour les 15 chaque mois. On a à chaque province les tiers de l'ordre permanent et à la fin du mois, on doit ajouter les 2 tiers. Malheureusement, les instructions n'ont jamais suivi. Jusqu'à aujourd'hui, on nous donne seulement les 1 tiers et l'autre 10 tiers ne vient jamais. Donc là, on ne peut pas comprendre ça parce que la rétrocession vient avec les réductions qu'on appelle rétrocession. Et l'ordre permanent vient au service de qu'on appelle ordre permanent. On peut pas prendre l'argent de l'ordre permanent pour payer les personnels. Quand les personnels sortent, ils sont de l'ordre permanent plutôt de la rétrocession. Parce que dans la rétrocession, il y a une partie pour le fonctionnement, il y a une partie pour les ETD.
Donc
voilà, nous, on a fait un problème. Avec toutes les remarques du niveau de l'Assemblée provinciale, on a dit de pouvoir gratter dans l'argent du mode permanent pour prendre une partie ajoutée de l'argent de la rétrocession, plus les locales pour pouvoir payer les gens.
Merci, Monsieur le Gouverneur. On vous garde encore dans cette émission. Professeur Arsène Mouaka, quelle est votre analyse à ce niveau?
Oui, je crois qu'on est en face là d'une situation d'un autre gouverneur qui tombe, puisque en fait, c'est pas le tout premier gouverneur qui tombe. Et donc, effectivement, en province, on a vu, par exemple, en Équateur, par deux fois au Sud Kivu et au Maniema, des gouverneurs qui tombent et qui sont accusés de détournement. Mais le constat que l'on peut faire, c'est que généralement, dès que ces gouverneurs tombent, on n'a pas toujours la suite de la démonstration du détournement, en d'autres termes. Il n'y a pas généralement de procès ni de sanctions que l'on communique à la population par les assemblées qui font tomber le gouverneur. De deux, généralement, on constate que quand le gouverneur tombe, c'est quand il est en contradiction avec l'assemblée provinciale. Donc, je crois peut-être qu'il y ait dans ce cas ici aussi une mésentente qui se situerait peut-être sur une autre place. Mais comme la plupart des gestionnaires de la République ne sont pas toujours orthodoxes, et donc il est assez facile de trouver de quoi les accuser. Bon, de trois, je crois quand même qu'on ne peut pas reprocher à un gouverneur d'avoir investi et de n'avoir pas payé le salaire. Je crois que ce serait quand même inacceptable du point de vue de la population. Une accusation de ce genre, je crois, légitimerait davantage le gouverneur aux yeux de la population, puisque ce dont la population a besoin, c'est la construction du pays. Donc peut-être la question que l'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a que l'argent de la rétrocession qui doit payer les salaires, ou alors l'inverse, c'est-à-dire il n'y a que l'argent de la rétrocession qui doit aider à investir. C'est peut-être dans ce questionnement que l'on peut trouver la solution, trouver un peu plus d'éclairage. Mais du moins, je crois que ce qu'il faut déplorer, c'est de voir que le désordre de Kinshasa, qui refuse de décentraliser, qui refuse de faire fonctionner le pays comme il se doit, le désordre du gouvernement central pratiquement va se transmettre sur le fonctionnement des provinces, et je crois que là, on est en face d'une situation où le gouverneur dit Kinshasa ne m'a pas donné ma rétrocession pendant 8 mois, et donc je n'ai pas payé de ministre. Comme je le comprends, il n'y a que cet argent qui peut payer le ministre. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il faut vraiment déplorer les refus de décentralisation qui s'observent au pays.
Professeur Mouaka, à part cet aspect que vous évoquez, hein, des ordres de Kinshasa, comme vous l'appelez, y a-t-il un problème de communication entre les différents acteurs, le gouverneur et les députés provinciaux et les ministres, ou un problème d'intérêt personnel?
Oui, je crois qu'il peut y avoir le tout. Il faut quand même avouer que la province de Bandundu a été relativement stable jusqu'il y a peu, quand il y a eu changement de bureau de l'Assemblée. C'est une province qui passait de plus en plus pour un modèle, du moins du point de vue des médias, puisqu'il y a aussi la gestion réelle et la médiatisation de la gestion. Puisque sur la médiatisation de la gestion du gouverneur Lambu, je crois que l'image qui demeure dans les têtes des populations, c'est que c'est une des provinces qui était censée ne rien avoir et qui se débrouillait dans différentes constructions, puisque la politique nationale décidée par le chef de l'État, c'est celle des infrastructures, il faut construire. Et donc, qu'importe le reste, mais bon, il faut construire. Et je crois que le gouverneur passait pour un modèle de cette politique-là qui consiste à avoir de bonnes images et à les balancer à la télévision. Je crois que de ce point de vue-là, dans l'opinion publique, il est passé pour un des meilleurs gouverneurs, etc. Et je soupçonne peut-être qu'il y ait encore une mésentente entre l'exécutif et le législatif au niveau provincial.
Professeur, il y a des auditeurs qui nous écrivent, c'est le cas de Sivir et de Bénéonor Kivu qui dit que les autres assemblées provinciales suivent ce bon exemple du Bandundu. Je pense que les députés provinciaux de cette province n'ont pas été corrompus pour réussir à voter cette motion. Du Bandundu, Serge Molenda de Kikwit, je pense que le départ du gouverneur Richard Ndambu de la tête de la province du Bandundu va assurer les autres sur le mode de gestion des provinces congolaises. Votre réaction, professeur?
Oui, je crois que je ne peux pas applaudir quand même le fait qu'un gouverneur tombe, parce que ça déstabilise une province et c'est tout un élan qui est coupé à une année des élections. Mais aussi, je dois quand même dire que ça reflète le fonctionnement de la démocratie. C'est-à-dire les gestionnaires ne doivent pas considérer qu'ils sont là éternels et qu'ils peuvent tout se permettre sans être sanctionnés. Je crois que la sanction est nécessaire, mais cette sanction n'est pas que le fait d'être déchu. Cette sanction, elle est multiple, donc il y a plusieurs sanctions qui peuvent être appliquées à un gouverneur qui gère mal. Il n'y a pas que la déstabilisation totale de l'exécutif qui peut être la sanction. Et donc, je suis plutôt d'accord avec Serge de Bandundu qui dit que les autres gouverneurs doivent tirer des leçons, mais si refuser en fait, d'investir et payer les salaires, bon, moi, je ne serais pas d'accord. Je crois qu'un gouverneur qui est investi dans sa province est à féliciter. Maintenant, peut-être qu'il faut équilibrer le tout et c'est qu'on reproche au programme qui a été donné à tous les gouverneurs. Tous les gouverneurs passent pour des ministres des Travaux publics et Aménagement du territoire. Quand ils donnent leur bilan, ils ne donnent que le bilan d'un ministère, ils oublient tous les autres ministères. Et je crois que là, la sanction, c'est de lui rappeler que, écoutez, monsieur, le pays, ce n'est pas seulement des infrastructures, il y a beaucoup d'autres problèmes sociaux et tout de suite qu'il faut regarder. Mais je crois qu'il faut plutôt tirer sur la politique du gouvernement actuel, qui est celle des infrastructures, tout ce qui est visible, au détriment d'autres secteurs. Et ici, dans le cas du Bandundu, je crois que ce qu'on lui reproche, c'est la politique sociale de ses collaborateurs les plus immédiats, ce qui est inacceptable.
Merci. Honorable Boniface, toi, avant de vous redonner la parole, prenons cette réaction qui nous vient de Bukavu Sud-Kivu pour vous.
Robert Mahomet de Bukavu Sud-Kivu. La décision de l'Assemblée provinciale de Bandundu d'infliger la motion de défiance au gouverneur est une bonne chose. Cependant, cet organe délibérant a-t-il réellement épuisé ou respecté toute la procédure normale pour en arriver à cette décision? Le contraire serait une injustice ou un tort à réparer. Je pense que c'est bien d'infliger cette motion de défiance au gouverneur pour le fait de le reprocher. Mais du côté de l'Assemblée provinciale de Bandundu, quelle étude de haute portée sociale a-t-elle déjà voté pour les miens de la population de cette province pendant cette législature suivante?
Honorable Toi, je vous prie de répondre à la dernière assertion de la question. Honorable Antoine. Honorable Antoine, est-ce que vous me suivez? Voilà, la réalisation va tenter de retrouver Boniface Ntoa, président de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Monsieur le gouverneur Richard Ndambou, il y a Neville Lugula de Kinshasa qui dit « En voyant les images du Bandundu et la joie spontanée de la population, je pense que le gouverneur Ndambou doit absolument s'incliner devant la volonté populaire. C'est aussi cela la démocratie, car les dirigeants ne sont que les représentants du peuple. »
Oui, j'ai suivi ce qu'il vient de dire. Je verrais mon côté beaucoup plus haut. Je verrais mon côté un peu beaucoup plus haut. Lorsqu'on parle de détournement, il faut avoir des preuves. Quand le gouverneur a détourné 3 millions, 5 millions. Mais ici, je prends une des questions ou une des griefs qu'on a avancées. Le détournement de l'argent des items, impôts personnels minimum. Cet argent, les items avaient été gérés par le ministère provincial de l'Intérieur, le gouvernement provincial, sous la signature du gouverneur, a fait passer la commande. Nous avons des items à Kenya. Nous avons remis ça au ministre de l'Intérieur. Si je veux faire des items pour c'est centralisé pour leur permettre, ça, dès qu'on paye les impôts, on paye des taxes, ça permet aux secteurs et aux bourgs ou aux communes d'avoir l'argent nécessaire et c'est décentralisé. Parce que nous avions réuni le système. Dans notre entendement, après de voir que le système est sera décentralisé, devait rembourser, donc remettre au ministre provincial de l'Intérieur les 10% des items. Cependant, ce n'est pas le gouverneur de province qui agit. Toutes les finances qui peuvent récolter les 10%, mettre ça au niveau pas le gouverneur. On dit que le gouverneur l'a détourné. Ce n'est pas le gouverneur qui a détourné. Et jusque là, on n'a fait aucune enquête auprès du ministre de l'Intérieur pour dire que voilà, vous avez eu autant et vous avez donné ou vous avez détourné autant. Il n'y a aucune enquête qui a été faite. Voilà une accusation gratuite. Une autre accusation gratuite. On dit que le gouverneur a détourné l'argent de cette nécessaire de système 1 plus 4. Par rapport à cette question, et ils confondent, j'ai expliqué ça au mois d'octobre. Lorsqu'on devait voter le projet de budget 2011, j'ai venu encore d'expliquer ça lors de ma défense. C'est vrai que le ministre du budget a fait la liquidation. Quand le ministre du budget fait la liquidation, l'argent pour arriver à la banque, il faut que le ministre des Finances, du niveau national, fasse l'ordonnancement. Dès qu'il fait l'ordonnancement, l'argent entre au niveau de la banque centrale et la banque centrale nous le transfère au niveau de la banque centrale provinciale. Au niveau de la banque centrale provinciale, cet argent entre dans les comptes de l'OD, ordonnateur délégué au niveau de chaque province. Alors, pour ce qui est de l'argent du système 1 plus 4, nous avons reçu une lettre de justice et de budget qui stipule, voilà, on a liquidé autant. Mais nous n'avons jamais reçu une lettre du ministre des Finances qui nous fait savoir que voilà, ou plutôt des trésoreries de l'État qui nous fait savoir, voilà, dans votre compte, pourtant d'argent est entré pour payer ces gens-là. Nous n'avons jamais reçu ça. Une somme d'argent que vous n'avez jamais reçue. Comment vous pouvez les détourner? Cette question, si c'est d'argent perdu, on pouvait vous poser la question à l'ONU qui gère ces comptes-là. Moi, je me demande si la sortie des fonds, on devait vérifier d'abord les députés, vérifier faire des enquêtes au niveau de l'ONU. Pour vérifier si réellement cet argent est entré dans notre caisse ou dans la caisse de l'OD et que nous l'avons sorti.
Monsieur le gouverneur.
On dit par exemple le gouverneur a détourné les matériels du génie civil. Je me fais comprendre que la province de Bandundu est la seule province qui n'a jamais reçu les matériels du génie civil. J'ai même demandé aux mêmes députés, dans le maître Égolais, qu'ils puissent nous aider avoir les centrales qui puissent avoir ces matériels. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu ces matériels de génie civil.
Monsieur
on a promis ça pour le mois d'octobre 2010, nous n'avons jamais reçu ça.
Monsieur
alors, il y a des problèmes. Comment on peut détourner quelque chose que vous n'avez jamais reçu? C'est une aberration.
Monsieur le gouverneur, vous avez mené l'affaire en justice. Qu'est-ce que vous reprochez à cette démarche de l'Assemblée provinciale?
Je ne sais pas. J'ai même suivi lors des débats.
Monsieur le gouverneur.
Que Bolanoué te dise.
Monsieur le gouverneur.
Tranquillement. Et d'une façon méchante, que le gouverneur a vendu un tracteur à Ishaka. Mais est-ce qu'il y a une preuve qui montre que le gouverneur a vendu un tracteur, ce que le gouverneur brandit qu'il a vendu un tracteur? Voilà déjà des confusions que les députés ont pu semer, même dans leur motion. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'annexe, il n'y a pas de
preuves
de tourner des millions. Donc voilà un peu pour vous dire que tout ce qu'ils avancent comme allégation, ne sont pas des choses qui sont tout à fait vraies.
Monsieur le gouverneur, permettez que je vous arrête à ce niveau, le temps de donner la parole et de poser également des questions d'éclaircissement. La réalisation me signale que nous avons du mal à joindre Boniface Ntoua, président de l'Assemblée provinciale du Bandundu, qui pourtant a commencé avec nous dans cette émission. S'il est en train de nous suivre, qu'il nous permette de le joindre pour continuer le déroulement de cette émission. Professeur Mouaka, vous avez dit tout à l'heure que cette décision de l'Assemblée provinciale a des répercussions sur le fonctionnement de cette province, notamment elle la déstabilise. Pourquoi?
Oui, je crois que quand, à une année de la fin d'un mandat, un gouverneur sort et on cherche un autre, c'est pas une très bonne chose pour la continuité d'une politique qui doit se faire au bout de 5 ans. Et donc, absolument, la province doit pouvoir prendre un coup. Et surtout pour une province comme le Bandundu qui doit absolument beaucoup travailler pour préparer la décentralisation. Je crois que là, on est en face d'une situation qui n'est pas assez intéressante. Mais on ne peut pas pour autant arrêter la démocratie. Ça signifie que si une majorité de ceux qui observent quotidiennement une gestion constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils doivent bien argumenter, comme dit le gouverneur, et avancer réellement des arguments qui permettent de mettre en œuvre cette mauvaise gestion. Tout ce que je sais, c'est que le plus souvent, dans notre pays, la plupart des gestionnaires ne sont pas orthodoxes, à tout moment, ils sont déstabilisables.
Alors, professeur, et par rapport à Kinshasa, hein, au gouvernement central, vous avez tout à l'heure dit, en parlant, je reprends votre terme, du désordre de Kinshasa qui refusait la décentralisation. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du gouvernement central pour faciliter le fonctionnement des provinces?
Je crois que c'est simple. Il y a un moment où le Premier ministre est passé pour nous présenter les différentes contributions de provinces au budget national. Il a montré l'argent que générait chacune des provinces. Et c'est très simple. Il suffit d'appliquer la Constitution, ou du moins les textes légaux, qui disent qu'il faut rétrocéder quelque chose à la province. Je ne sais pas pourquoi Kinshasa bloque la vie en province en ne rétrocédant pas ce qui est dû à cette province. Et je crois que là, on est en face d'une situation qui déstabilise déjà le Bandundu. Mais je crois que ça doit être la même réalité pour les autres provinces qui doivent avoir autant de mois d'absence de rétrocession. Et donc, du coup, on asphyxie ces provinces à leur fonctionnement puisque les gouverneurs sont obligés de gérer la plupart de leurs collaborateurs et même parfois des assemblées provinciales. Ils sont obligés de prendre le peu d'argent qu'il y a en province pour combler à l'absence de ces rétrocessions. Et donc, ça empêche aux provinces de vivre, ça empêche aux gouverneurs de mener des actions de développement, ça les empêche d'investir pratiquement dans la province. Et là, on est en face de gouverneurs qui étaient obstinés et qui voulaient absolument investir, et il a payé. Il a payé puisqu'il n'a pas payé même les collaborateurs les plus immédiats qui sont censés faire le travail. Et je crois que ce sera le mal de cette politique qui consiste à faire du gouverneur le seul ministre qui agit, puisque finalement les autres ministères ne fonctionnent pas. Parce que les gouvernements provinciaux ne fonctionnent que par les infrastructures, et là, c'est pas normal.
Honorable Ntoua, est-ce que vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée provinciale du Bandundu. Malheureusement, le temps a vraiment avancé. Il nous reste moins de 10 minutes pour terminer l'émission. Passons directement à la deuxième partie de l'émission. Quelles pourraient être, d'après vous, les conséquences de cette décision sur le fonctionnement de la province du Bandundu?
Oui, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de conséquences fâcheuses. Les lois sont claires. Si le gouverneur ne peut plus gérer la province, le vice-gouverneur doit faire ce travail et il le fera de façon correcte parce que je crois qu'il y a déjà une leçon donnée par rapport à son chef qui vient d'être évincé par l'Assemblée provinciale. Et cette fois-ci, je crois qu'il sera sage pour suivre les conseils de l'Assemblée provinciale.
Alors, le professeur Mwaka a dit que cette décision pourrait déstabiliser la province du Bandundu, qui pourtant semblait déjà prendre un certain élan.
Je ne pense pas que ça puisse déstabiliser la province. Celui qui va venir doit suivre ce que l'autre a laissé. Et je n'ai pas d'inquiétude, je ne pense pas qu'il y ait de problème qui puisse créer des conséquences fâcheuses à la province du Bandundu. Bien au contraire, celui qui va venir aura peur de l'Assemblée provinciale parce qu'il sait que l'Assemblée peut sanctionner lorsqu'il travaille pas bien. Donc je crois que cette leçon que nous venons de donner va nous éclairer dans l'avenir pour que la province soit gérée de façon orthodoxe.
Je vous repose, honorable Antoi, une question que j'ai adressée tout à l'heure au gouverneur Ndambou. Dans cette affaire, est-ce un problème de communication entre les institutions, un problème d'intérêt personnel ou de mauvaise gestion prouvée?
Je pense que ça ne doit pas être un problème d'intérêt, ce n'est pas non plus un problème de communication, parce que c'est vrai, pour la communication, c'est vrai parce qu'il y a certains éléments a apporté dans la salle de plénière n'ont pas été connus, ces éléments n'ont pas été connus par les députés. Le manque de communication aussi était un élément, mais surtout, les députés, ils sont maintenant mis parce qu'ils connaissent leur travail et ils ont pris la décision qu'ils devraient prendre. Je crois que lorsqu'on parle de détournement, et j'ai suivi le professeur Arsène dire que très souvent, on déçoit le gouvernement dans l'idée qu'il a détourné, mais après, il n'y a rien qui s'est fait. Je crois que ça ne doit pas être le cas au Bandundu parce qu'il y a déjà une action au parquet général que nous avons déposée, une plainte déjà au pénal. Donc, c'est juste que pour dire que la situation de Bandundu se diffère de celle des autres provinces.
Alors, à ce jour, par rapport, nous sommes à quelques mois des élections, comment vous entrevoyez, honorable Antoi, l'avenir de la province du Bandundu?
Bon, je crois à la veille des élections, celui qui doit venir sera en sorte que, parce que le chef de l'État, lui qui est là, qui est l'unité, qui est le garant de l'unité de la nation, il ne pourra pas accepter que n'importe qui soit au niveau de la province, dont nous nous ferons l'honneur, parce que nous savons que nous sommes avec le président de la République et celui qui va venir, nous allons choisir. Ce n'est pas comme nous avions fait au début de la législature où nous devions être de nos niches. Actuellement, nous avons mis nos réflexions et nous avons lu des textes. Celui que nous allons prendre, c'est celui qui sera la fierté et du chef de l'État et de la province et de tout le monde.
Alors,
Je voulais dire aussi que la sanction que l'Assemblée provinciale a donnée en quelque sorte au gouverneur de Chine, mais je crois que vous avez suivi, à titre que les gens ont chanté, à Bandundu, les gens ont chanté, même à Idio Fachéli, les gens ont marché. Donc, je crois que c'est un peu partout, à Nyoki, à Kenya, à Inongo, les gens ont jubilé son départ. Donc, il n'y a pas de problème. Celui qui viendra sera la fierté de la province et qui sera derrière le chef de l'État.
Monsieur le gouverneur Richard Ndambou, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Je vais vous demander des réponses très brèves. Quelles pourraient être, d'après vous, les conséquences de cette situation sur le fonctionnement de la province du Bandundu?
Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que, d'abord, je trouve que l'honorable président Toa n'aime pas la province du Bandundu. Je vais le dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, je suis tombé. C'est bien. Donc, je suis démissionnaire. Mais, je ne suis pas encore parti. Et que, il y a beaucoup de chantiers que moi j'ai ouverts. Ce n'est pas seulement dans les domaines d'infrastructure. Que ce soit dans les domaines de l'eau, que ce soit dans les domaines de l'électricité, que ce soit aussi dans les domaines d'agriculture et des infrastructures. Je suis certain que le gouverneur qui viendra me remplacer ne pourra pas continuer les actions que j'ai commencées. Parce que,
c'est
l'activité de l'Assemblée provinciale pour pouvoir les remplacer. Imaginez. Bon, maintenant, chaque mois, je fais à l'Assemblée, au permanent, 42 millions de francs congolais. Ces 42 millions de francs congolais que nous payons à l'Assemblée nationale et provinciale, c'est sur base de quels critères? Vous comprenez, ce sont des ententes politiques qui nous obligent de donner cet argent. Lorsque vous ne donnez pas cet argent, les 42 millions, vous avez un problème. Est-ce qu'à ce moment-là, le président sait que l'argent qu'on a donné, c'est pour construire, ou cet argent, c'est pour pouvoir les donner?
Merci.
Moi, je pense que c'est parmi les gens qui n'aiment pas cette province et qui ne veulent pas que les programmes que moi j'ai commencé puissent arriver à sa fin. Je suis parmi les gouverneurs qui ont le plus construit, parce que j'ai plus de 55 écoles qui ont été inaugurées et terminées. J'en ai une quarantaine qui sont en voie d'être terminées. C'est des hôpitaux, au moins 5 hôpitaux, j'ai un hôpital secondaire terminé, inauguré. J'ai un hôpital général de référence terminé. J'ai fait beaucoup de choses. Moi, je pense que ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est un problème de l'intérêt personnel. Avant la motion, il y a eu une entente qui a été faite entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Ils nous ont dit, si vous acceptez de signer un accord avec l'ATC pour que nous puissions avoir nos indemnités de sortie avant la fin, par des véhicules que vous nous aurons signé un crédit, vous allez, on va retirer la motion. Ça, c'était même le président de M3 a mis une commission pour faire ce travail-là.
Merci,
cette commission, on a demandé au ministre des Finances,
monsieur
on a demandé à l'honorable Kassembe, on a demandé
monsieur
à l'honorable...
Monsieur le gouverneur, permettez que je vous arrête à ce niveau. Il reste au moins de deux minutes pour terminer l'émission. Professeur Mouaka, votre conclusion déjà, à quoi faut-il s'en tenir?
Je crois que la démocratie doit vivre. S'il y a un mauvais gestionnaire, il doit tomber. Mais je crois qu'on ne doit pas reprocher seulement à un gouverneur d'avoir investi dans sa province de deux. L'éviction ne doit pas être la seule sanction. Il faut qu'on arrive à retourner à la province qui est en fait présumée avoir été pris de la province. Donc, j'espère que le député va bien le démontrer, parce qu'on a comme l'impression que là, on n'a pas assisté à de bons arguments convaincants sur les victoires de ces gouverneurs.
Merci, professeur Mouaka. Honorable Boniface Ntoua, je reprends rapidement la question de Bahomé de Bukavu. Quel édit de haute portée sociale l'Assemblée provinciale du Bandundu a voté pour le mieux-être de la population pendant cette législature finissante? Brièvement, honorable.
Bon, par rapport à cette question, je pense que comme il n'y a plus assez de temps, je préfère seulement donner ma petite conclusion un peu ailleurs. Puisque le gouverneur, lorsqu'il dit, le gouverneur sortant, je veux dire, au-dessus, lorsqu'il dit que l'Assemblée provinciale a négocié pour qu'on puisse acheter des indemnités de sortie qui nous paient, des indemnités de sortie pour qu'on puisse retirer les signatures. Non, moi j'ai dit non, c'est lui au contraire. C'est lui au contraire qui a utilisé des gens pour venir chez nous, pour en fait créer une façon de corrompre les gens. Et moi j'avais attiré l'attention de tous les députés lors de nos discours. Ouverture, j'ai dit que les députés doivent...
Merci honorable Antoine, malheureusement on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur le gouverneur Ndambou, juste un mot pour conclure.
Moi je pense que pour conclure, on n'a pas trouvé pour moi que j'ai détourné. Il n'y a aucune preuve de détournement.
Merci monsieur le gouverneur, c'est par vous qu'on termine cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, à Guy Manzang ou Bob Lambo à la technique. Bon, c'est au programme sur Radio Capi. Thank you.